L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 15 juillet 1789. L'été qui joue sa partition en France est chaud, sec. En somme, particulièrement agréable. Il fait suite à un printemps extrêmement pluvieux et donc, toutes les cultures sont foutues. Le peuple a faim. Les ventres crient famine. Les esprits s'échauffent. Mais ça, à Versailles, tout le monde s'en fout. Le petit monde de l'aristocratie vit comme hypnotisé par les dorures. Tournoyant autour du couple royal en passe de devenir légendaire. Louis XVI et Marie-Antoinette. Le monarque est déjà levé depuis un peu plus d'une heure. Dans quelques instants, le descendant de Dieu sur Terre sera mis au courant de l'impensable. La Bastille est prise. Il est un peu moins de 9 heures du matin. Les pans chantent dehors, les pauvres se révoltent. Et c'est leur hache de mon histoire. La veille, le monarque, perruque poudrée sur la tête, vêtu d'un ensemble satin bleu roi brodé d'or, est suivi par tout son équipage de chasse. Depuis les écuries de Versailles, ils partent, à bride abattue, dans les bois environnants du château. Le domaine est immense. À la mesure de son aïeul, le grand, l'indestructible, l'immortel, roi soleil. Ah, qu'il est beau, ce château! Oh, certes, sans doute, le plus impressionnant du monde. Mais à quel prix? Les temps ont bien changé. Lorsque lui, le jeune Louis XVI, passait dans les rues au début de son règne, les gens du peuple ne l'acclamaient pas. Non, ils murmuraient. Mais ce matin du 14 juillet, alors qu'il est un peu avant midi, tout va bien dans le meilleur des mondes pour le roi? Oh, il n'aime pas plus que ça, la chasse. Mais il s'ennuie. Alors, lorsque c'est la saison, il sort presque tous les jours, tuer des cerfs. Cela lui donne un air guerrier. Souverain, dans un costume qui paraît presque trop grand pour lui, le roi n'aurait jamais dû être roi. Son frère aîné a perdu la vie, il y a déjà longtemps. Il est bien plus un passionné de serrure et d'horlogerie que de champ de bataille. Pendant que toute la chasse fait crisser les fers sur les pavés et s'élance dans la forêt, la reine, elle, et dans ses appartements privés avec ses enfants. Elle regarde son mari partir à l'aventure. Le goût amer du pressentiment au fond de la gorge. Oh, non pas qu'elle soit médium ou assez fine en politique pour comprendre ce qu'il se passe au loin, dans la capitale, Paris. Mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir les tensions qui jalonnent le royaume, bien contente de préserver le couple royal en leur vendant du rêve. Rêve qui, depuis longtemps, n'existe plus. La reine observe donc l'immense étalon grisonnant que monte son mari s'éloigner au loin et reste les yeux dans le vague. Quant au roi, les joues frappées de l'air frais de la forêt, il est à la recherche d'une biche. La dernière fois que son équipage et lui se sont traînés jusque dans les bois, ils sont tombés dessus. Mais, galopant entre les fourrés, elle avait semé les chiens autour de l'un des étangs, narguant le souverain. Oui, elle avait osé, employant sa grâce et sa volupté, tout ce qui manquait cruellement au roi de France, et elle avait disparu. Jamais Louis XVI n'avait vu une biche aussi grande, on aurait dit un cerf. Alors ce trophée de chasse, il le veut, coûte que coûte. Voilà donc ces emplumés d'aristocrates autour de lui qui cherchent à obtenir ses faveurs en fouillant des buissons qui ne pourraient même pas cacher un lièvre. Louis XVI déteste ça. Tant de mièvrerie alors qu'il n'est pas dupe. Il entend bien les rires dans son dos. La France, cette année-là, est une véritable poudrière. Necker, son principal ministre d'État, a été renvoyé. La population y a vu un mauvais présage teinté de manque de respect. En effet, l'homme avait l'idée folle de taxer plus les riches plutôt que d'aller, comme d'habitude, taper sur les mêmes têtes qui s'effondrent, les pauvres. les classes moyennes, les bourgeois. Et donc, dans un contexte où le monde de la finance est devenu son ennemi, car, faisant pression sur lui, le gérant d'un territoire endetté jusqu'au cou depuis la guerre d'indépendance américaine, Louis avait dû plier et renvoyer le ministre le 11 juillet. C'est tout frais donc, à peine 3 jours. Et depuis, Paris s'embrase devant l'éviction de son champion. Louis XVI, d'un coup de lunette, repère une biche. Il n'envoie pas les chiens. Ce n'est pas celle qu'il recherche. Le roi a les mains moites, bien accroché sur sa bride. Il faut dire que, plus que la partie de chasse, la situation du royaume est critique. Depuis le 5 mai, les états généraux sont ouverts. On lui a forcé la main. Il n'en voulait pas de cette assemblée qui représente les différents corps de sa société. C'était une poudrière. Et puis, lors de son discours d'ouverture, le fameux Necker, fort de son éloquence exceptionnelle, s'était mis le peuple dans la poche. Devant sa prise de contrôle progressive et ce qu'il juge comme étant un manque de résultats, le roi avait renvoyé son ministre. Le peuple de Paris l'avait appris le dimanche, en allant à la messe. C'est là que d'aucuns, comme un certain Camille Desmoulins, avaient commencé à appeler à l'insurrection. Prendre les armes contre le gouvernement du roi. Voilà une belle formule pour dissimuler une attaque directe contre sa politique. Oh, dire que le roi est coupable, c'est la mort assurée. Alors, accusons donc ses ministres. L'étalon du roi Piaf. Il a bien compris, ce brave animal, à quel point son cavalier est tendu comme les collants qu'il porte. À l'affût au bord d'une carrière, la meute attend le moment d'être lâchée. Et voilà qu'au loin, le pelage doré comme un trésor inca, se présente une biche aux yeux plus vifs que ceux des autres cervidés. Le roi n'a pas menti. Elle est immense. Magnifique, elle arrache les brins d'herbe avec une grâce à vous faire rougir les dieux. Mais aujourd'hui, la divinité est la proie. Les yeux de braise. Pensant à Necker et à ce peuple qui a la tête plus que dure, Louis XVI lâche les chiens et lance sa monture d'un coup sur ses flancs. Que la chasse commence. Quelques heures plus tard, revoilà la troupe, abandonnant les chevaux dans la cour. La perruque pleine de branches, le roi rentre bredouille. L'animal, encore une fois, aura été le plus fort. Autant vous dire que le monarque enrage et que la soirée qui se déroule alors est celle de la soupe à la grimace. Paris, déjà, est embrasé. Mais le souverain et la reine, eux, n'en savent encore rien. C'est encore le temps de l'insouciance, celui durant lequel il est possible de bouder pour une proie qui nous échappe. Une chose est sûre, ce ne sera plus le cas encore longtemps. Le matin du 15 juillet, le soleil se lève dans un éclat de splendeur comme seul Versailles peut l'accueillir. Les dorures sur les façades s'étirent dans ce bain de lumière de l'aube. Les bassins, dans un bruit agréable et continu, viennent réveiller les habitants du petit hameau de la reine. Tout va bien. Le roi, comme tous les jours, se prête au cérémonial du lever. Les uns le rasent, les autres l'aident à se changer. Chaque petite permission est un privilège immense, celui de toucher le divin du doigt. La Rochefoucauld, lui, ne participe pas ce matin. Il arrive, porteur de nouvelles de la capitale. Mauvaise, comme vous pouvez l'imaginer. Le duc a le pas vif mais incertain, le regard inquiet, mais plus vif que jamais. Sa perruque est de travers, son ensemble en satin cramoisi est à peine portable. Le temps des apparences, déjà pour lui, est terminé. Alors que le roi est en train de se faire coiffer pour la journée à venir, la Rochefoucauld se fait annoncer. Il doit attendre dans l'antichambre la fin de la manœuvre capillaire du jour. Le poids des rituels à Versailles, plus qu'ailleurs, est une véritable religion. Nous sommes le 15 juillet 1789. Les pendules du château s'apprêtent à sonner les 9 heures du matin. Le duc pénètre dans les appartements du roi. Le regard interrogateur, le souverain attend que son ami parle. De quelques mots, le duc annonce à Louis XVI le soulèvement à Paris, la prise de la Bastille, les armes qui circulent et l'odeur de la poudre et du sang. C'est là encore une fois que la légende prend le bras de la vérité et l'invite à danser. Dans un élan de surprise, Louis XVI aurait demandé à son informateur. C'est une révolte. Et lapidairement, celui qui déjà a l'esprit au cœur de la tempête de répondre « Non, sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. » Alors qu'à Versailles, l'inquiétude surplombe l'insouciance. À Paris, la révolution est en marche. La tête du gouverneur de la prison royale, elle, se balade déjà au bout d'une pique. Pour comprendre cette agitation parisienne qui, bien que soudaine, est en réalité latente depuis quelque temps déjà, il nous faut revenir au dimanche 12 juillet 1789, soit 3 jours avant. Il est un peu avant midi. Dans toutes les rues de la capitale, les habitants sortent de leurs paroisses et de leurs églises. Ils rejoignent le monde réel, loin de la communion dominicale avec le Seigneur. Du faubourg Saint-Antoine à l'île de la Cité, la capitale s'éloigne de la tension politique au travers des messes. Enfin ça c'était avant que les journaux imprimés dans la nuit ne soient diffusés en masse et passent de main en main. Ils annoncent l'impensable, le renvoi du ministre Necker. Celui qui, pourtant, avait montré à quel point le gouvernement royal semblait ouvert à de profondes réformes lors des États généraux le 5 mai précédent. Tout près du palais royal, un jeune homme, au charisme un peu plus affirmé que tous les autres, a revêtu son habit du dimanche. C'est un jeune avocat de 29 ans. Un chapeau sur lequel il a accroché une jolie fleur. Un long par-dessus qui lui tombe le long des cuisses et une lavalière en coton noué autour du col de sa chemise blanche. Il est attablé en terrasse du café de Foix, tout près de ce palais qui appartient au cousin du roi. Autour de lui, l'ambiance est légère mais teintée d'un bruissement qui rappelle celui de l'eau dans une casserole qui commence à bouillir. Lui, il est rouge de colère. Notre homme s'appelle Camille Desmoulins. Et détail non négligeable pour un avocat, il est bègue et extrêmement intelligent. Quelques minutes plus tôt, alors qu'il traversait les jardins du palais d'un pas guilloré, l'un de ses amis du club des Cordeliers, au sein duquel il siège aux côtés de Danton, entre autres, lui a tendu la feuille de chou qui annonce le renvoi de Necker. Cela ne lui dit rien qui vaille au jeune avocat, alors même que les états généraux sont encore en cours. Ce Necker, ministre du budget, était opposé à l'augmentation des impôts pour éponger la dette faramineuse contractée pour venir en aide aux révoltés américains. Sur la petite table en bois sur laquelle est posé son verre, Desmoulins tape machinalement ses doigts. Sa jambe aussi, comme débordante d'anxiété, tremble dans un va-et-vient aussi impressionnant qu'inconscient. Il réfléchit sans cesse. Son esprit jamais ne s'égare, mais plus saisissant encore, jamais ne s'arrête. Une machinerie parfaitement huilée, aux raisonnements multiples et contradictoires les uns avec les autres, comme un débat permanent au sein d'une même cervelle. Ah, c'est du grand art. Camille Desmoulins n'arrive pourtant pas ce matin à se figurer les causes de ce renvoi qui risque de soulever tous ceux qui composent ce qu'on appelle le tiers-état. Durant cette période si particulière que sont les états généraux, ils représentent les intérêts du peuple. Non, ce départ n'a aucun sens, si ce n'est celui de dévoiler les réelles intentions de la monarchie à l'égard de ses sujets. Elle ne les voit finalement que comme des pense-Afrique. Alors, certes, les pauvres sont dans la misère avec la charge d'argent qu'on vient leur réclamer, mais les plus à plaindre sont ceux qui se trouvent entre les deux classes. D'un côté, l'aristocratie, à qui on ne demande aucun effort et qui se gave sur le dos des plus pauvres. De l'autre, le petit peuple, incapable de payer plus. Eh bien, entre ces deux-là, vous avez la bourgeoisie, une sorte de classe moyenne dont lui, Camille, fait partie. La particularité de ces gens est qu'ils ont le malheur de se faire eux-mêmes. Il comprend donc instantanément que si une nouvelle hausse des impôts est confirmée, lui, tout comme ceux de sa classe, se retrouveront vite au niveau des miséreux. Alors là, non, ça c'est trop. D'un coup de colère, il réalise ce qu'il doit faire. Il doit haranguer la foule, convaincre les plus pauvres de protester. Pour ce faire, il compte bien pointer du doigt le traitement des plus riches. Il prend une grande inspiration, puis il se lève. Il monte sur la table, renverse son verre d'un coup de botte et se saisit de ses deux pistolets qu'il brandit en l'air. Il a l'œil mauvais, la respiration haletante. Et entre deux bégaiements forcément dus au stress, Camille Desmoulins hurle à la foule ces quelques mots ressemblant bien plus à un pirate sous des comptoirs des Caraïbes qu'à un avocat. Il ne nous reste qu'une ressource, c'est de courir aux armes et de prendre les cocardes pour nous reconnaître. Joignant le geste à la parole, il arrache la feuille d'un arbre non loin de là et s'exclame que la feuille sera le symbole du ralliement. Le vert, couleur de l'espoir. Le jeune homme l'ignore, mais dans ce cri de colère, il vient de lancer la révolution. En 1794, Camille Desmoulins prendra la direction de l'échafaud, comme beaucoup d'autres avant lui. Avant de perdre la tête, il dira sobrement « Ainsi devait mourir le premier apôtre de la liberté, sans bégaiement. » L'insurrection qui commence va avoir l'effet d'une traînée de poudre. De la volonté de manifester, on passe très rapidement à un appel général à prendre les armes. De nombreuses manifestations sauvages, dès l'après-midi même, déferlent dans toutes les rues. Le faubourg Saint-Honoré est en ébullition. Dans les jardins des Tuileries, de nombreux manifestants hurlent au renversement du gouvernement du roi. C'est la cohue. Hallucinante, imprévisible. Des bustes de Necker et du duc d'Orléans, vous savez, le cousin du roi et jugé proche du peuple, sont portés aux nues. On se les lance dans la foule. On crie à l'injustice sur le renvoi du ministre. Pire, et surtout, blasphème absolu pour l'époque. On critique le roi. Plus seulement son gouvernement. C'est aussi Louis XVI en personne qui est attaqué. Le régime chancelle. Au bout d'une heure de manifestations et de cris dans les jardins des Tuileries, c'est l'escalade. Un régiment de cavalerie qui stationne dans le coin est appelé en renfort et se présente face à la foule. C'est le Royal Allemand. Leur uniforme est à dominante bleue et les parements, vous noterez comme moi l'ironie, sont rouges et blancs. Le futur drapeau de la nation se dessine déjà. Les cavaliers, en tous les cas, immenses, se dressent sur de grands chevaux. Ils portent en plus un bonnet à poils sur leur tête. Voilà des hommes qui ont de la stature et surtout qui sont des fidèles du régime. Ils regardent avec dédain la foule en colère. Ce sont eux qui, une fois l'ordre de charge prononcé, s'en donne à cœur joie. Résultat des courses, plusieurs blessés, peut-être même quelques morts que l'histoire a hélas passé sous silence. Cet épisode de répression fait passer l'armée royale pour anti-française. Il est 20h lorsque le commandant des troupes de Paris, officier aussi débordé qu'incompétent, se décide, croyant bien faire, à installer les régiments des gardes suisses sur le champ de Mars. L'armée joue les gros bras, mais fait extraordinaire. Elle se divise. Le régiment de cavalerie, accusé d'avoir renversé les manifestants, est pris à partie par les gardes françaises. Un régiment d'infanterie créé, tenez-vous bien, par Catherine de Médicis, 200 ans plus tôt. La chaussée d'Antin devient alors le théâtre d'une scène totalement folle, au sein de laquelle deux troupes de la même armée se font face. Les gardes françaises, accusées de sédition, seront ensuite licenciés par le roi. Du jamais vu. Le lendemain 13 juillet, toute la capitale se réveille l'écume aux lèvres et le goût de la poudre au fond de la gorge. Dans la nuit, les révoltés se sont mis d'accord sur deux points. Du vert de l'espérance, on passe maintenant à la cocarde bicolore. Et puis, alors que le prix du grain et du pain atteint un niveau jamais observé depuis un siècle, ils décident de brûler les points d'entrée dans la capitale pour la couper du monde, forçant ainsi les marchands à baisser leur prix. 40 sur 54 sont pris d'assaut et mis à sac au petit matin. En parallèle, à 6 heures du matin, alors que le jour vient à peine de se lever, quelques dizaines de personnes marchent sur le couvent Saint-Lazare. Ils s'en emparent. Des bruits circulent. On dit que les réserves de grains s'y trouvent. C'est un échec. Deux heures plus tard, ceux qu'on appelle les électeurs de Paris se réunissent à l'hôtel de ville de la capitale et décident d'y siéger de manière permanente. Mieux, une milice de près de 50 000 hommes est fondée séance tenante. Le signe distinctif de cette troupe, la cocarde bicolore, bien entendu. Le tout aux couleurs de la ville de Paris, donc le bleu et le rouge. Le blanc, couleur du roi, viendra se rajouter plus tard. Voilà donc la capitale dotée de 50 000 soldats révolutionnaires. Nombreux donc, mais pas armés. On décide de se rendre aux garde-meubles de la couronne et d'en prendre les armes. Rien d'extraordinaire dans le stock, seulement de vieilles armes de collection. Autrement dit, des fusils à mèche dont la plupart ne sont plus en capacité de tirer. La nouvelle assemblée réunie à l'hôtel de ville se met donc à réfléchir. Vers 16 heures, elle se décide à marcher en direction des Invalides, lieu dans lequel les armes de guerre sont stockées. Une montagne de fusils, de canons et de munitions. Une délégation se présente donc face au gris de la structure militaire qui dresse son dôme doré éclatant dans le ciel. Et je vous laisse imaginer la tête du gouverneur du site lorsqu'on lui réclame 50 000 fusils et de quoi les faire tirer. Il n'a reçu aucun ordre du roi et donc reste droit dans ses bottes. Le gouverneur refuse de manière catégorique cette option. Durant la nuit, l'Assemblée décide donc de s'attaquer à un des symboles les plus forts du pouvoir royal. Ce qu'il faut, c'est attaquer au cœur. Demain, le peuple de Paris va marcher sur un objectif inattaquable. La prison royale par excellence, autrement dit, la Bastille.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache se décide à fouiller dans l'un des épisodes qui a fondé la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, la prise de la Bastille. Aujourd'hui célébrée comme la fête nationale du pays au drapeau bleu, blanc, rouge, ce siège fut l'issue de nombreuses tensions, manifestations et incompréhensions. C'est la cohue dans la capitale. Des soldats portent la cocarde bicolore rouge et bleu et cherchent des armes. Le gouverneur des Invalides ne veut pas leur ouvrir la porte. Pas de problème. Ils vont en trouver ailleurs et s'attaquer au pouvoir omnipotent du roi Louis XVI. L'avocat Camille Desmoulins, dans son discours du 12 juillet, avait dit, entre autres phrases, que le départ du ministre Necker était le tocsin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Cela en référence au massacre des protestants par Catherine de Médicis et les catholiques ultra du royaume. Tout le monde craint un complot des royalistes, dont la première étape est le renvoi de ce ministre à la cote de popularité décidément très élevée. Nous voilà donc mardi 14 juillet 1789, au cœur d'un brasier qu'aucun soldat du feu ne sera bientôt plus en mesure de stopper. Il est 10 heures. Derrière les grilles qui encadrent le dôme le plus célèbre de la capitale, le marquis de Sombreuil, 66 ans, l'épée au côté, dans une tenue vieux jeu d'aristocrate, essaie tant bien que mal de retenir la foule. Car oui. Oui, elle est revenue. Déjà la veille au soir, le vieil homme, comme sorti du formol, avait dû faire face à la vindicte populaire qui lui avait réclamé des armes. Fin de non-recevoir et surtout, grosse surprise de l'homme d'État. Pourquoi donc Paris se soulève-t-elle? C'est du jamais vu. Le vieillard, né à une autre époque en 1723, est encore de ceux qui se prosternent devant un roi qu'ils pensent descendre de Dieu. Il a connu tout le règne de Louis XV. Alors, imaginez sa surprise devant ce soulèvement qui semble populaire. Enfin, c'est quelque chose d'établi, le fait que l'aristocratie ne paye pas d'impôts, non? En tous les cas, le vieil homme n'en a pas dormi de la nuit. Et voilà que ce matin, les soldats qui gardent la grille le font appeler de nouveau. La veille au soir, il a déjà dit non à une délégation composée d'une dizaine de représentants. Ce matin, c'est une autre paire de manches. Ils sont au moins une centaine à vociférer. Ce sont des artisans et des marchands. Et ils réclament des armes. Ils ne demandent plus l'ouverture des grilles gentiment, non. Ah, plus du tout même. Ils l'exigent. Autant vous dire que le vieil homme transpire à grosses gouttes devant les faux et les piques qui lui font face. Et courageux comme un soldat du Christ devant les murs de Saint-Jean d'Acre, il fait ouvrir les portes. Ça y est, les émeutiers sont dans la place et vont se servir dans un désordre caractéristique de la journée qui s'annonce. 30 000 fusils et 12 canons. Alors vous allez me dire, quel butin ! Oui, certes, c'est vrai, vous avez raison. Mais les assaillants oublient un détail. La poudre. Du coup, c'est beaucoup moins intéressant. C'est maintenant la deuxième partie du plan ourdi dans la nuit qui se profile. Les munitions, on ira les chercher à la Bastille. Voilà donc qu'à 10h30, un peu plus de 1000 émeutiers en quête de stocks d'armes et de munitions se dirigent vers la prison royale et y envoient une première équipe. Depuis Louis XIV, on enferme à la Bastille ceux qui sont mis sous les verrous par la seule volonté royale. Le célèbre masque de fer y est passé. Pour cela, pas de jugement, pas d'avocat. Non. La cellule et point barre. On réalise donc aussi que se présenter face à la Bastille, c'est aussi la possibilité de libérer les opprimés. Autant vous dire que les émeutiers ne sont pas au bout de leur surprise. Sur ce sujet, comme sur plusieurs autres. Le gouverneur de la Bastille, interloqué, est au moins aussi surpris que celui des Invalides. Le marquis de Launay est du même profil. Dédaigneux, vieux, aristocratique. Il a cependant un défaut supplémentaire. Il est plus têtu. La foule qui se masse sous ses fenêtres le surprend et déjà l'effraie un peu. Il reçoit à 11h30 trois représentants des insurgés qui réclament, comme aux Invalides, armes et munitions. Il refuse les demandes pour la deuxième fois en une heure. Mais effrayé du potentiel pouvoir d'une telle foule, il fait dépointer les canons et affirme aux représentants qu'il ne tirera pas. Du moins, si ceux qui sont dehors ne tentent pas d'entrer dans la forteresse. Il se croit à l'abri derrière ses murs. Il va bientôt déchanter. Les émeutiers de la première délégation, eux, ont été reçus avec amabilité et ont pu déjeuner avec le gouverneur. Personne n'obtient pourtant gain de cause. La foule croit ses émissaires retenus prisonniers. Le quiproquo est total. De Launay, en bon gouverneur, ayant eu vent de ce qui s'était passé la veille au soir aux Invalides, a fait déplacer l'arsenal de la prison dans une cour intérieure, en sûreté. La deuxième délégation, elle, s'avance face aux grandes portes de la prison avec 5 canons pris à la Bastille et aux garde-meubles royales, dont 2 sont des cadeaux faits, tenez-vous bien, par le prince de Siam à Louis XIV. Pas de première jeunesse, donc. Mais ils tirent, les vieux machins. Et, avec l'aide de soldats ralliés à sa cause, la foule se sert de son petit stock de poudre pour tirer la première sur les grandes portes. Ensuite? Ensuite, c'est l'embrasement. Un bruit suspect, et c'est le premier assaut. Les émeutiers ont cru que contre sa parole, le gouverneur avait ordonné une canonnade sur la foule. Il n'en était rien. Il n'a pas bougé d'un iota. Mais voilà qu'il est à peine midi et qu'une horde de protestataires se jette sur sa forteresse. Des assaillants, plus fins les uns que les autres, pénètrent dans la cour. Ils viennent, à coups de hache, détruire les chaînes de l'immense pont-levis qui commence à flancher. Le marquis de Launay, en sa qualité de gouverneur, n'aura finalement pas le choix. Il va devoir répondre, œil pour œil, dent pour dent, balle pour balle. Malgré les injonctions, la foule ne change pas son objectif d'accéder à l'arsenal et de se servir. C'est la cohue. Les quelques dizaines de défenseurs, une centaine tout au plus, se préparent à la riposte. Elle va venir. Le sang, lui, ne cessera de couler en flot continu. Les premiers martyrs de la Révolution s'apprêtent à mourir. Delaunay regarde sa montre. Il est 13h30. L'heure de se défendre au prix du sang.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache nous emmène au cœur des prémices de la Révolution française. De manière traditionnelle, les frises d'histoire et les cours suivis à l'école placent le commencement de ce bouleversement le 14 juillet 1789. C'est la date de la prise de la Bastille. Cette prison royale, symbole de puissance et surtout gardienne d'un stock d'armes et de munitions. Mais le marquis de Launay, son gouverneur, refuse de se laisser faire et... Face aux assauts répétés d'une foule en délire et débordant de colère, il se décide à faire feu. Le vieil aristocrate court à sa perte. Bientôt, les dés seront jetés, définitivement. Nous sommes le 14 juillet 1789. Il est entre 15h30 et 16h. Plus personne, déjà depuis longtemps, ne regarde plus sa montre. Paris est devenu un champ de bataille. Fumée, sang, coups de feu, tout y est. Les assaillants, depuis 3 heures, se jettent sur les portes de la Bastille. La petite garnison, composée en majorité d'invalides, a répondu avec ses canons et ses fusils. Les assaillants sont victimes des salves. Plus d'une centaine d'entre eux est tuée. Une autre centaine de blessés plus tard, Delaunay se rend compte que le peuple... qui est là, ne renoncera pas. À moins de faire une montagne de morts, il va devoir envisager la reddition. D'autant qu'il est encore temps de sauver sa peau, parce que bon, ces soldats invalides à qui il manque des doigts ou des yeux, ça ne fera pas le poids longtemps. Alors le vieux marquis, couvert de poudre, croit faire une belle affaire en négociant une reddition. Ok, on accorde aux assaillants de se servir dans les stocks de munitions. Stock de toute façon bien entamé par l'assaut, à la condition que personne ne soit exécuté, surtout pas lui. Deal accepté de l'autre côté, et voilà bientôt que la furieuse foule en colère pénètre dans l'enceinte. Direction l'armurerie, certes, mais aussi les cellules. Rappelez-vous, tout le monde s'attend à trouver une multitude de prisonniers politiques enfermés là à la demande du roi. Quelle surprise! Lorsque finalement, les prisonniers découverts sont au nombre de 7. Vous avez bien entendu, 7. 7 pour une des prisons les plus politiques du royaume. C'est un peu, faut bien le dire, la déception. Parmi les 7 prisonniers sous les verrous, 4 sont des faussaires qui disparaissent aussitôt dans la nature. Un autre homme, Tavernier, est un homme ayant tenté de tuer le roi Louis XV. 30 ans qu'il est là. 2 nobles enfin, 2 comtes, l'un enfermé pour cause de folie à la demande de sa famille et l'autre enfermé à la demande de son père à cause d'une relation pour le moins incestueuse avec sa sœur. Les 3 prisonniers sont portés par la foule du cortège tandis que les faussaires, eux, vous pensez bien, disparaissent très vite. Pour la petite histoire, dès le lendemain, le comte fou et l'assassin en herbe sont rattrapés et reconduits dans une autre prison. Celui aux amours interdites gagne le droit de rentrer chez lui. Bon. Et notre marquis dans tout ça? Les assaillants, en premier lieu, tiennent leur promesse. Ils se contentent d'encadrer la garnison pour la conduire à l'hôtel de ville afin qu'elle soit jugée pour les morts qu'elle a causées durant l'assaut. c'est la cohue dans la rue. La tension est palpable. Le gouverneur fait profil bas, tente de passer entre les gouttes. Rapidement, certains appellent à la trahison. Les coups de pied pleuvent, puis les coups de poing, puis les coups de sabre. Le marquis finira par tomber au sol. Il sera roué de coups, puis décapité au couteau, sauvagement, par un aide-cuisinier qui prit part à l'assaut. Il n'est pas le seul à mourir. Certains invalides, qui ne suivent pas le rythme, sont tués sans ménagement. Sans oublier un certain Jacques de Fressel, prévôt des marchands de Paris, qui refusa de participer à l'escalade. Il sera brutalement abattu d'un coup de pistolet, place de Grève. Avant d'être décapité lui aussi, les têtes des deux nobles seront baladées au bout de pique. La foule danse et chante longuement. Tout le monde pense que le peuple a gagné. En tous les cas, la révolution, elle, commence. À 18h, Louis XVI, qui ignore que la prison d'État est prise, fait évacuer les troupes suisses du Champ de Mars. La Bastille, elle, vide et fumante, bientôt ne sera plus. Ainsi se termine le récit de cet assaut absolument dantesque. La légende est célèbre. À la date du 14 juillet 1789, dans son journal, le roi a noté d'un trait « rien ». Beaucoup y voient un manque de sens politique. Ce n'est pas le cas. En effet, ce carnet n'est qu'un résumé de ses parties de chasse. Et comme nous l'avons déjà vu, le roi retourne au château Bredouille. Mieux, il complétait ce carnet à un mois d'intervalle, soit pour la date du 14 juillet à la mi-août. Le roi sait donc déjà ce qu'il s'est passé. Autre point à éclaircir, j'avoue vous avoir un peu induit en erreur. L'histoire nous a transmis le fait que Louis XVI a su le 15 au matin que la Bastille était attaquée. Il n'en est rien. Il est au courant dès le 14 juillet que l'assaut est donné sur la prison. C'est d'ailleurs une revendication des insurgés de voir également le Champ de Mars libéré de ses troupes. C'est chose faite, comme nous l'avons vu, à 18h. Le roi sait donc à ce moment-là qu'une foule se presse devant le pont-levis de la Bastille. D'ailleurs, une première vague d'émigration d'aristocrates a lieu le lendemain de la prise de la prison. Cela implique que les événements étaient connus. Certains nobles craignent même que la foule ne se presse vers Versailles dès le 15 juillet. L'armée royale en ressort profondément divisée. La Bastille, elle, est au fond victime d'une légende noire qui court depuis le règne de Louis XIV. Mais le fait est que les prisonniers n'y sont pas nombreux, et surtout pas tellement importants en 1789. Tellement pas que la légende va s'emparer de l'affaire et inventera de toutes pièces un hypothétique huitième prisonnier, vieux, croulant, longue barbe hirsute et cheveux blancs, l'incarnation même de la fureur monarchique contre ses opposants. Ce comte de Lorge est en réalité une invention pure et simple de certains leaders venant des assaillants. Parlons-en d'ailleurs des vainqueurs de la Bastille. Ils sont portés au nu par le régime qui leur accorde des brevets, des armes et des médailles en 1790. Alors que les royalistes les considèrent comme des animaux ou des prédateurs assoiffés de sang, les républicains, eux, les célèbrent en héros. L'histoire est souvent une pièce à deux visages. La forteresse, elle, fut finalement détruite dans un chantier monumental qui débuta dès le lendemain de sa prise. Cela fut supervisé par un entrepreneur privé, Palois, qui fit fortune dans la vente de pierres de la Bastille, sculptées et vendues comme souvenir. Il n'en reste aujourd'hui sur place que quelques rares traces dans la station de métro attenante et dans un restaurant situé sur la place de la Bastille. Une des clés de la forteresse fut envoyée au président des États-Unis, Washington, cadeau fait par le marquis de Lafayette. L'horloge et les cloches ont longtemps été conservées dans l'heure. Le carillon est lui toujours visible dans le Gers, au sein du musée européen d'art campanaire, autrement dit, l'art relatif aux cloches. Et puis je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation à propos de cette fameuse prison. qui a abrité de nombreux prisonniers célèbres, du marquis de Sade au masque de fer en passant par le maréchal de Luxembourg ou le cardinal de Guise. Elle est signée de la plume de Louis de Bonald, qui s'exprime en 1817 sur le fameux événement. Il écrit « Des sottises faites par des gens habiles, des extravagances dites par des gens d'esprit, des crimes commis par d'honnêtes gens. » Les deux faces de la pièce, toujours. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.